Alors, je vais essayer d'indiquer le point d'aboutissement de cette analyse. Simplement en essayant de montrer qu'il peut arriver que dans la descendance du patriarche, il y a une conduite imprudente dans ce thème d'identité. Je sais pas comment dire, une conduite de coquetterie. De s'exposer alors que l'on a été porté par ce témoignage apporté, de s'exposer imprudemment alors que c'est pas le temps d'aller en Égypte pour dire que la femme c'est la sœur, on risque d'être persécuté, alors que c'est pas le temps d'aller chez Abimelech pour dire que la femme c'est la sœur, on risque d'être emprisonné. On le fait quand même avec imprudence, alors on est puni de cela, de l'imprudence, pas du fait d'avoir dit que la femme est la sœur au niveau du patriarche. Bien. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous donner l'explication. Alors, c'est clair. Voyez donc que le Maharal aurait pu intégrer l'enseignement de Nachmani dans son propre système d'explication. Il n'a pas voulu le faire pour deux raisons, pour trois raisons d'ailleurs. La première, c'est que ce n'était pas la réponse qu'avait donnée le Talmud. Cela, on y arrivera mercredi ou jeudi matin. Mais vous avez commencé à les explorer. La deuxième, c'est que l'explication de Nachmani est dangereuse parce qu'elle est de type péché originel, si elle n'est pas bien comprise. Parce que le patriarche aurait fait quelque chose, la descendance est punie, Maharal nous dira c'est pas ça. Lorsque la descendance fait ce qu'a fait le patriarche, mais en faute, c'est moi qui ajoute pour commencer en faute de coquetterie. Imaginez ce peuple d'Israël s'est baladé dans toutes les civilisations en racontant que sa femme c'est sa sœur. Alors on lui a pris sa femme parce qu'on n'a rien compris à son histoire. Est-ce que c'est clair? Et la troisième raison pour laquelle le Maharal refuse l'explication de Nachmani, c'est parce que le thème lui-même est dangereux et qu'il ne veut pas qu'on l'apprenne comme ça. Et ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, c'est possible parce que nous sommes à la fin des temps de l'exil et que l'humanité entière commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que la Bible d'Israël, c'est en même temps pour Israël la femme et la sœur. On commence à peine à le comprendre un peu. Alors c'est moins dangereux, si je dis. Mais imaginez ce mystère. Pourquoi étions-nous tellement persécutés pendant 2000 ans pour avoir dit cela? Eh bien, le Maharal nous répond maintenant de façon plus simple. Parce que c'est ça qu'il fallait faire. Mais il ne fallait pas le faire de façon imprudente. On ne va pas chez les Béotiens pour dire que la femme, c'est la sœur. On prend acte que ce sont des Béotiens et on attend des temps meilleurs. Pareil. Je pense que c'est clair. Donc, maintenant, vous avez la parole.
Non, vous avez presque répondu, mais ça pose évidemment un problème de halakha, parce qu'on pourrait dire à première vue que Abraham a été imprudent et donc condamnable parce qu'il n'a pas été compris. S'il avait été compris, il a fallu combien de millénaires qu'il le soit. C'est là le problème de la halakha pendant tout ce temps jusqu'à maintenant. Maintenant, nous pouvons comprendre.
Ce qui s'est passé,
et nos pères,
c'est que Abraham l'a fait en préfiguration. Ça nous est raconté en préfiguration. Je vous donnerai une petite indication. Il y a trois étapes, c'est pourquoi il y a trois épisodes. Il faut d'abord que lui découvre cela en elle. Et c'est pas simple. C'est le verset où Abraham dit « Voici, je découvre que tu es belle, alors dis que tu es ma sœur. » Et il ajoute « Vechayeta nafshi birlaver »« Et mon âme vivra grâce à toi. » J'ai traduit « Vechayeta nafshi birlaver » »« Et mon âme vivra grâce à toi. » Voici comme ça qu'on le traduit dans les livres traduits. Nefesh, c'est la personne, le sujet. Et comment on a pu se tromper à ce point que Abraham aurait voulu dire, je vois que tu es belle, alors dis que tu es ma sœur, comme ça on ne me tuera pas, on me laissera vivre. Il a voulu dire tout à fait autre chose en hébreu. Il dit, tant que tu dis pas que tu es ma sœur, je ne suis pas vivant. C'est ça qu'il le dit. Si vous l'entendez en hébreu. Vous savez d'ailleurs que les lois du mariage sont expliquées dans le Talmud de la manière suivante. Là, j'aborde un autre thème pour vous montrer une des profondeurs de ce problème. Et que la différence entre l'homme et la femme, c'est qu'avant le mariage, l'homme a l'essence humaine, mais pas l'individualité. Et la femme a l'individualité, mais pas l'essence. Dans le mariage, l'homme acquiert l'individualité et la femme acquiert l'essence. Ça veut dire, en français ça veut rien dire, mais en hébreu, c'est plus clair. Le mariage pour l'homme s'appelle Kinyan Nefesh. Il acquiert son Nefesh. Alors que pour la femme, ça s'appelle Kinyan Etzem. Il connaît Hatzma. Elle acquiert son etzem, alors que l'homme acquiert son nefesh. Rapporté à d'autres problèmes, c'est très important. Lorsque Abraham dit, Vehaïta nafshi, biglaver, ça veut dire, tant que tu n'as pas dit que tu es ma sœur, je ne suis pas encore quelqu'un qui puisse dire, j'ai une personne. Et c'est sa personne à lui qui est en jeu, pas celle de sa femme. Alors, vous pensez bien qu'il y a deux imprudences, deux dimensions d'imprudence. D'abord, quand les juifs se baladent avec les messages qu'ils portent sans les comprendre, ils sont terrifiants ces messages. Alors on se jette sur eux parce qu'ils affolent l'humanité. À manier avec précaution. Mais inversement, il y a aussi la dimension que vous avez indiquée. Il y a un temps de civilisation où il faut parler de ces choses-là avec beaucoup de prudence. Et je vais essayer de schématiser comment ça s'est passé en Occident. Eh bien voilà, on a découvert qu'il y avait un peuple qui portait le salut pour l'humanité entière. Comme dit par exemple un verset des évangiles, le salut vient des Juifs. Regardez le malentendu qui s'est produit. Ce salut porté par ce peuple concernait ce peuple et les autres. Comment les autres ont réagi? Tu nous portes le salut, mais nous ne pouvons l'accepter qu'à condition qu'il ne te concerne plus à toi. C'est bien comme ça que ça s'est passé. Voyez à quel point ça ressemble. Et je pense qu'il y a eu de la part des premiers juifs fondateurs du christianisme qui osent dire cette espèce de coquetterie d'imprudence qui consistait à s'exposer au suicide pour le salut de l'humanité. Alors tout cela a été dangereux. Encore une fois, au niveau des patriarches, c'est une vertu. Au niveau de leur descendance, à manier avec précaution. L'explication du Maharal consiste à dire, c'est quand cette vertu est pratiquée pas sous forme de vertu, disons sous forme d'orgueil, sous forme de coquetterie, que la sanction arrive. Ça va jusque là. Mais nous verrons que l'explication du Maharal, lui, la sienne, va aller beaucoup plus profond que ça. Il va dire, il y a une manière d'avoir la foi qui dévoile une faiblesse de la foi. Et c'est cette faiblesse de la foi que l'exil va corriger, va punir. Mais ça en arrivera mercredi matin ou jeudi matin. Vous avez une question.
Pourquoi Abraham s'est senti obligé de... Il s'est senti obligé de faire cette déclaration à la douane. Est-ce que c'était lui qui, en fait, sentait le caractère vital de cette déclaration? On ne lui demandait rien, finalement. Les peuples, eux, ne se sentaient pas concernés par ce truc.
Très bien. Vous reprendrez par votre question. Et j'ai longuement réfléchi à cet aspect de la question. Deux réponses. La première, c'est que lorsqu'on a fait une découverte pareille, on ne peut pas se taire. Et que c'est comme ça que l'histoire juive a fonctionné. Dès qu'il y a eu émergence de découverte des valeurs, les juifs ont clamé ces valeurs-là. C'est tout le fond de notre question. C'est le premier point. Cette découverte, comme beaucoup d'autres, est d'une telle importance qu'on ne peut pas la taire. Alors, longtemps, les Hébreux ont parlé un langage chiffré, si j'ose dire un langage codé, de telle sorte de n'être compris que par celui qui peut comprendre. Malgré tout, il y a impossibilité de taire ces découvertes. D'autre part, je ne crois pas qu'on puisse dire que l'humanité n'attend pas cela d'Israël. Ça, c'est l'autre aspect de la question. Je crois que notre voyage au sein de l'humanité, et nous avons voyagé partout, montre bien cela. C'est vrai que les non-juifs disent aux juifs parfois avec beaucoup d'irritation, vous ne jouez pas votre rôle suffisamment bien. Et c'est vrai aussi qu'ils attendent que quelqu'un joue ce rôle-là. Qu'il y a, je ne sais pas, comment dire, une sorte d'angoisse en creux, d'angoisse en vide. Pourquoi Dieu ne parle pas? Pourquoi Dieu ne parle plus? Parce que le porte-parole se tait. Et tout le monde sait que le porte-parole, c'est ce peuple-là. Par conséquent, il y a corollairement un appel de cette parole. Tout cela est très difficile à vivre. Vous avez absolument raison. Et ce que le Maharal nous explique, comme j'essaye de l'interpréter, au niveau des patriarches, c'était une vertu. On ne peut pas dire qu'Abraham a fait une faute en exposant sa femme, il savait ce qu'il faisait. Au niveau de la descendance, ça peut être une imprudence. Et là, vous auriez raison de dire, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des moments où c'est dangereux. Est-ce que c'est quelque chose? Et j'irai un peu plus loin dans cette analyse avec le deuxième exemple d'Abraham, la vente de Joseph par ses frères. Il peut arriver que l'on fasse en méchanceté une conduite qui normalement est une conduite de vertu. Alors lorsqu'on l'a fait en méchanceté, à ce moment-là, la sanction. Vous voyez que le destin d'Israël n'est pas cette porte. Je vous donne un petit exemple qu'on va reprendre dans l'histoire de Joseph. Imaginons cela, effectivement, comme au temps du Pharaon. L'humanité attend. D'Israël, dans la figure de Joseph, la parole de salut. Alors on s'adresse aux Juifs en disant, dites-nous ce que votre Dieu vous a dit et qui nous concernerait à nous. C'est ça l'histoire des rapports entre l'humanité et Israël depuis des millénaires. Et vous avez l'immense majorité des Juifs capables de parler qui, de façon extrêmement dangereuse, répond « De quoi vous parlez ? Nous sommes athées, nous sommes les enseignants de l'athéisme moderne et vous nous demandez la parole de Dieu. » Alors imaginez la conséquence. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? J'ai souvent cette discussion avec des intellectuels d'Europe, d'Amérique. Nous, les Juifs, nous avons une mission chez les nations. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas en Israël, mais chez les Goyim. Alors je demande toujours naïvement, quelle est cette mission? On n'arrive pas à me répondre, parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce qu'on est en plein dans ce problème-là. Cette mission ne pourrait être que porter la parole du Dieu d'Israël chez les nations. Or, qu'est-ce que font les intellectuels juifs chez les nations? Tout le contraire. Donc, ils déclenchent ce niveau périlleux de la rencontre avec celui qui attend qu'on lui dise qu'est-ce que ça veut dire que sa femme est belle, et puis on lui répond, eh bien, pornographie. Vous avez compris. On lui fait des films à sensation. Et là, c'est là que le moral expliquera ce qui était vertu au niveau des patriarches, risque d'être faute au niveau de la descendance. Vous aviez une autre question?
C'est précisément quand c'est dangereux qu'il faut révéler.
Pardon?
C'est précisément lorsque c'est dangereux
qu'il faut, révéler. Bien sûr. Mais là, monsieur vous répondra ce qu'il a dit tout à l'heure. Vous avez des moments où ce danger de quand c'est dangereux dévoile que ceux à qui on devrait parler ne veulent pas entendre. Ce que j'ai appelé les Béotiens tout à l'heure. Okay. Imaginez ce douanier égyptien au temps de parole. Okay. Alors que lui, dans sa civilisation, c'était le contraire. Étant donné la pureté de le franc et pas le juif. C'est vrai. Alors, vous voyez ce qui se passe. C'est la Bible nous raconte ici un message à deux registres, ou plusieurs registres, enfin au moins deux. Un registre où on risque de culbuter dans le mythe. Et un registre qui est codé, qu'il faut décoder, et qui explique notre histoire concrète. Ça peut se résumer de cette manière rapidement. C'est ceci. Il y a des valeurs à déclarer, comme on dit à la douane, et parfois il est très dangereux de déclarer ces valeurs sans les expliquer. Et parfois il est très dangereux de les déclarer même en les expliquant, parce que ceux qui ont besoin de ces valeurs n'attendent que supprimer Abraham pour prendre sa sœur parce qu'elle est sa femme. Il y a un personnage du destin, c'est que Dieu intervient. Et Dieu au Pharaon rend lui sa femme. Et c'est quand Dieu n'intervient pas que c'est très très naturel.
Est-ce qu'on peut considérer la traduction de la Bible comme l'expression c'est ma sœur?
Oui. À condition, c'est qu'elle traduise vraiment la Bible. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. C'est-à-dire que la traduction de la Bible, ça peut être toutes les trahisons possibles de la Bible. Je ne sais pas comment dire ça, mais si j'ai bien compris votre...
Non, mais je parle de première traduction par les rabbins.
Ben justement, n'était pas simple. Je répondrai peut-être de la manière suivante. Il y a un aspect de la prophétie hébraïque qui ne concerne que la spécificité de l'identité d'Israël. Et il y a un aspect de la prophétie hébraïque qui concerne l'universel humain. Il faut donc exprimer dans la tradition de la Bible ce qui concerne l'universel humain. Lorsqu'on présente ce qui est spécifique à Israël comme étant les valeurs pour l'universel, on se heurte à ce risque. Je vais prendre un peu le schéma chrétien, si vous voulez. La position de la tradition juive, ça consistait à dire il y a une alliance spécifique avec Israël, mais c'est une alliance sacerdotale, et l'objet de cette alliance est l'universel humain dont Israël est porteur du sacerdoce. Et quelle a été la réponse du christianisme? Il n'y a plus d'alliance spécifique avec Israël. Cette alliance est étendue à tout l'universel humain. Oui, malentendu. C'est que le dialogue aurait dû être autre. Enfin, on entend que l'alliance spécifique d'Israël concerne à un autre niveau l'universel humain, sans qu'on ait à supprimer la dimension spécifique d'Israël. Mais cette espèce de rencontre où les uns et les autres se sont dit oui tout ou rien a amené à cette catastrophe de l'histoire juive dans le monde chrétien. Est-ce que c'est clair? C'était pas oui tout ou rien. C'était cet aspect pour Israël et l'autre aspect pour les nations. Mais lorsque on a présenté cela comme ça, ou bien vous, les nations, vous prendrez tout, c'est-à-dire la spécificité d'Israël, ou bien vous n'aurez rien, les nations ont dit, nous prendrons tout, mais vous, Israël, vous n'aurez rien. Et réciproque. Je pense que j'étais suffisamment clair. C'est encore une fois, c'est pourquoi peut-être j'hésite à vous répondre directement. C'est pas la même Bible qui concerne Israël et celle qui concerne vous. C'est pas la même chose, la femme et la sœur. Il n'y a que pour Israël que c'est les deux à la fois.
Mais Abraham, justement, voulait révéler justement au peuple que la femme était la sœur. Alors, est-ce que là, il y a eu mélange? Est-ce qu'il a donné un enseignement de la Torah qui concernait spécifiquement le peuple juif? Où est la ligne de partage aussi entre...
Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre parce que oui, nous étudions plus en détail les Midrashim qui en parlent. Revenons, si vous voulez, au schéma simple du Maharal. Au niveau du patriarche, cette conduite qui consiste à s'exposer à ce risque était une vertu. Il peut arriver qu'au niveau de la descendance, ça ne soit pas du tout une vertu, mais une espèce de prétention culturelle dangereuse, qui consiste à s'affirmer comme étant l'homme de l'universel, mais en même temps celui d'une spécificité radicale. Enfin, comment vous expliquez cela? Et cela, c'est dangereux, tant que l'humanité n'est pas préparée à cela. Par exemple, et je vis dans l'exil, puisque nous sommes dans ce sujet, commence par dire, chez qui ils vivent, il n'y a pas de différence entre nous. Il n'y a pas de différence entre nous. Les valeurs sont les mêmes. Nous sommes comme vous, vous êtes comme nous. Et là, il y a que la seule. Dans le même moment, il leur dit, et vous savez, ça n'a rien à voir, être juif comme vous. Il n'y a aucun rapport. Nous sommes radicalement faits. Ça doit rendre les douaniers égyptiens furieux. Et finalement, la réaction, c'est malin. Sauf, c'est ta femme ou ta soeur? Vous comprenez, c'est à ce niveau-là que j'essaie de répondre. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès ce moment de l'humanité, les vrais problèmes de l'homme ont été posés. Or, les vrais problèmes de l'homme sont indiqués par les prophètes pour la fin des temps comme étant des problèmes de communication entre le père et le fils, le frère et le frère, le mari et sa femme. Or, aujourd'hui, il est évident pour l'homme de culture contemporaine, enfin pour l'être de culture contemporaine, que ces problèmes-là sont posés comme étant les vrais problèmes de l'humanité. Et c'est dès le début de cette histoire, de cette geste, si j'ose dire, que le patriarche hébreu dévoile de quoi il s'agit. Voilà de quoi il faut parler. C'était imprudent, va nous dire le Maharal. Et j'espère que vous avez suffisamment entendu la dialectique de ce problème. Ce que je voulais expliquer, c'est que au niveau du patriarche, c'était une vertu. Et c'est pourquoi le Maharal ne veut pas entendre Nachmanide dire il a fait une faute. Cette faute, c'est quand les fils la font sous forme de faute, qu'elle sera punie comme faute. Je vous dirais, peut-être, dans la formule suivante, on arrive à un stade de l'analyse où il faut finir par comprendre que si l'exil est la punition d'une faute, cette faute c'est l'exil lui-même. Qu'en fin de compte, l'exil ne punit que l'exil. À partir du moment où c'est pas nécessaire de s'exposer inutilement, c'est interdit. Et que si on le fait quand même, on est puni de l'avoir fait. Et ça ne veut pas dire que le patriarche lui n'avait pas raison de le faire. C'était son rôle, dès qu'il avait fait cette découverte, de voyager dans la civilisation du temps pour dire voilà ce que j'ai à dire. Vous voyez, c'est clair jusqu'à... Oui.
Est-ce qu'il ne fallait pas précisément attendre une histoire de dernière nouvelle où l'explication puisse être universelle pour que enfin...
Écoutez, je reprends l'économie du texte lui-même. Vous avez bien vu que finalement, il n'est rien arrivé de grave, ni à Sarach le pharaon, ni à Sarach l'Abimélec, ni à Rivka chez Abimélec. Et que la Torah nous raconte cette histoire pour nous dire voilà comment ça se passe. Seulement, ça peut se passer de deux manières. Ça peut se passer, encore une fois, comme au niveau des patriarches, où c'est un témoignage de vertu. Ça peut se passer au niveau de la descendance, dans l'imprudence absolue des voyages des Juifs, plein de malentendus, Je ne reviens pas sur les analyses de tout à l'heure. Alors c'est là que la tradition expliquera que l'exil finit l'exil.
Vous êtes un de l'autre.
Oui.
Alors je vous demandais pourquoi c'est à ce moment-là que...
Oui, je le fais très rapidement parce que je ne sais pas si nous aurons le temps. L'autre, c'est l'exemple de cet échec de la sainteté dévoilée, mais qui contient en son sein une sainteté cachée. Et c'est pourquoi Abraham protégera Lot jusqu'au bout, parce qu'en fin de compte, de Lot sortira Ruth, qui sera l'ancêtre du roi David. C'est-à-dire, Lot était très près d'Abraham. Son échec est donc très grave. Mais dans cet échec de Lot, il y a de la sainteté cachée, qu'il faudra finalement ramener. Et c'est l'histoire messianique de la descendance de Lot. Oui, attendez une minute, j'ai d'autres questions.
Depuis quand l'exil est-il considéré comme une faute ?
Et je corrige un peu ce que vous dites. L'exil est considéré comme une punition d'une
oui.
faute.
Okay.
Mais de quelle faute ? Il arrive un stade, c'est la faute, c'est l'exil lui-même.
D'accord.
Je vous donne un exemple sous forme d'image. Imaginez un père qui avait à envoyer son fils en mission. Et il lui dit, voilà, ce que tu as à faire, reviens vite. À partir du moment où c'est fait, ou à partir du moment où c'est impossible à faire, si le fils ne revient pas, il est puni de ne pas revenir. Mmh. Est-ce que c'est clair?
Mais à partir, de quel moment?
Comment?
C'est le cas de Jacob, c'est le
par exemple. Mmh. Comment?
J'ai compris, mais à partir de quel moment, enfin dans l'histoire de l'humanité, à partir de quel moment
oui.
L'exil est-il une punition de l'exil enfin...
Ça, je ne suis pas prophète.
Mmh.
Ni même a posteriori, mais j'ai l'impression que ça fait 2000 ans que ça dure.
Ah, d'accord.
Et en tout cas, je vais vous dire. Là, on s'est souvent posé la question de savoir pourquoi certains grands maîtres du judaïsme ne font pas comporter dans leur code de la Torah le commandement d'aller habiter en Israël. Mmh. Par exemple, Maïmoné. La réponse est très grave. Parce que s'il fallait que dans ma Torah, il y ait un commandement comme ça, si tu es loin de ta mère, retourne chez ta mère parce que c'est sa mère, ça voudrait dire que c'est pas ma mère. S'il faut qu'on dise à quelqu'un, rentre chez ta mère, sous forme de commandement, peut-être que ça veut dire que c'est pas sa mère. Est-ce que vous avez compris? Non, c'est pas clair. Et donc, c'est un peu ce problème-là. Et je ne sais pas, ça on a toute la semaine pour avoir quelques éclairages, je ne sais pas si nous avons accompli la mission que nous avions accomplie. Mais nous avions en tout cas une déclaration à faire. Et quand c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Bon, ben, ça fait 2000 ans que l'humanité a entendu cela. Alors, de deux choses l'une. Ou bien, mission accomplie, alors on rentre à la maison, parce que peut-être on a encore autre chose à faire pour la prochaine civilisation. Il faut se préparer. Ou bien, c'est une mission impossible, alors à plus forte raison qu'il faut rentrer à la maison. Comprenez-vous? Alors, celui qui s'entêterait à cette histoire impossible serait puni de son entêtement. À l'origine, c'était une vertu d'aller voyager pour dire cela. Et je crois qu'il faut féliciter nos ancêtres d'avoir eu ce courage de dire dans l'humanité entière, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'essentiel de la Torah. Et moi, je lui j'ai intérêt à ce que vous entendiez, parce que sinon je ne peux pas vivre, alors entendez-le, et de s'exposer à ça. Mais à partir du moment où nous vivons dans un stade de la civilisation, où c'est évident à tous que c'est vrai, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ben oui, oui, où est l'imprimé? Si je diagnostique que Abel n'a pas pu éduquer Caïn, parce que Abel chez Caïn, il n'y a que deux éventualités, ou bien Caïn va l'assassiner, ou bien Abel, dans un sursaut de génie, va prendre un billet d'aller à la journée. Bien, là, ceci pour raccourcir le raisonnement. Oui, Diane.
Oui, dans votre introduction au début, vous avez abordé le problème qu'on a abordé tout à l'heure entre Abraham, Sarah comme femme ou comme sœur. Vous avez aussi abordé le problème de l'Israël de Joseph. Mais il y a aussi un problème peut-être qui voudrait. Enfin, c'est une autre hypothèse, dis donc.
Plus fort.
Dans le texte, il dit que quand Ismaël et Israël, Ismaël disons, pas en bas du trèfle, mais enfin, Agar veut renvoyer Ishmaël, et Abraham ne veut pas renvoyer Ishmaël. Et finalement, Dieu nous dit, d'accord, on va, écoute ta femme, on va Ishmaël. Est-ce que c'est le fait d'avoir envoyé Ishmaël plus tard, c'est pas une vengeance, mais puisque tu m'as renvoyé de chez moi, tu seras esclave chez moi pendant longtemps.
Enfin, c'est... Non, il n'y a aucun rapport. Ce qui va arriver dans l'histoire, c'est que l'exil que nous allons connaître va être divisé en deux branches. L'exil dans la civilisation islamique, c'est le thème d'identité d'Isaac avec Ishmaël. Et l'exil dans la civilisation chrétienne, c'est le thème d'identité de Jacob avec Ésaü. C'est pourquoi deux types de juifs de l'exil différents vont apparaître dans l'histoire. L'un, c'est le Sfaradi, c'est-à-dire Israël dans l'islam, et l'autre, c'est l'Ashkenazi, c'est-à-dire Israël en chrétienté. Mais c'est la même problématique dans deux styles de civilisation différents. Or, c'est beaucoup plus tardif. L'exil d'Israël chez les nations, et d'autre part, l'exil d'Israël chez les nations, mais au sein de l'islam ou de la chrétienté, c'est-à-dire au sein de deux communautés religieuses qui sont les rivales de l'identité d'Israël. Et ça, ce sera quand même plus tardif. Nous n'avons aucune source donnant ce type d'explication.
Oui. Est-ce qu'on pourrait lier ce que vous avez dit ce matin avec l'objet d'un séminaire où il fallait renvoyer, quand on voit un nid, quand on voit un oiseau dans un nid abandonné, on doit chasser la mère par trois fois. Et si l'oiseau revient, à ce moment-là, le laisser. Est-ce qu'on peut faire le lien suivant et dire on peut. Les Bnei Israël ont été exposés par trois fois à l'exil, c'est-à-dire à l'épreuve d'être dans l'exil, mais de se taire. Mais ils auraient bien fait. Et alors, c'est la quatrième fois, on peut le laisser dans l'exil.
Regardez, c'est très très bien. Là, vous citez un passage du Zohar. Je ne sais pas où vous l'avez lu. C'est dans votre mémoire ancestrale. C'est dans les Tikkuné Zohar. Mais ce n'est pas trois fois, c'est deux fois. Le verset dit « Shaleach teshalach et daem »« Shaleach teshalach »« Envoyé, tu renverras » C'est deux fois. Et la troisième fois, il n'y a plus de renvoi. Et ça a été comparé aux deux premiers exils, l'exil d'Égypte et l'exil de Babel. L'exil de Babel et l'exil d'Édom qui ont suivi la destruction des deux premiers temples. Nous sommes dans le troisième retour, donc il n'y aura pas de troisième exil de ce point de vue-là, après la construction. Effectivement, le devoir l'explique de cette manière. Il est mis à l'épreuve, elle se fait deux fois dessus. La troisième fois, l'épreuve aura réussi. Je crois que j'ai encore une question.
Si les Juifs s'étaient tués pendant 2000 ans pour se préserver, si les Juifs pendant 2000 ans s'étaient tués, ne s'étaient pas exposés par un comportement de coquetterie, s'ils s'étaient tués pendant 2000 ans, croyez-vous que les temps meilleurs seraient arrivés? Je veux dire que, est-ce que les Béotiens auraient évolué?
Écoutez, je crois que nous avons largement le temps de reprendre cela très en détail. Un peu comme disait George Friedman en parlant d'autre chose, cette question, il faut la revoir en miettes, dans tous ces détails. Une minute, je n'ai pas terminé. Je crois premièrement que les Juifs ne se sont pas tués. Mais peut-être qu'ils n'ont pas toujours dit ce qu'ils avaient à dire vraiment. Et pas toujours au même moment, et au moment où il le fallait. Et je ne voudrais pas trop anticiper sur les analyses du Maharal, mais simplement prendre un de ces thèmes importants. C'est que le signe de la fin de l'exil, c'est le retour lui-même, en ce sens que si la mise en doute est une mise en doute de la qualité de la foi dans les promesses que Dieu a faites à Abraham, seuls ceux qui avaient la foi vraiment vivront la fin de l'exil et l'événement du retour. Par exemple, lorsque Dieu dit à Abraham, c'est ta descendance qui est Israël. Nous voyons que dans cette première promesse, dans cette dimension d'identité, énormément de membres de cette descendance ont douté d'être Israël. Alors ils ont été punis de cela. Seuls ceux qui ont fini par avoir la foi qu'ils sont vraiment Israël se retrouvent Israël. Deuxième promesse, cette terre appartient à ta descendance, celle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Énormément de cette descendance doute que cette terre soit la nôtre. Vous savez à quel point nous vivons cela de façon tragique. Alors finalement, seuls qui ont cette foi-là auront cette terre-là. De la même manière, la troisième promesse, celle de la Torah, c'est ta descendance à partir de cette terre qui donne à l'humanité entière la parole de Dieu. Beaucoup de cette descendance doute de cela. À la racine de ce doute, il peut y avoir une perplexité de bonne foi, de l'ordre de la modestie, douter de soi, pas douter du fait que Dieu va accomplir cette promesse. Parce que ça donne le vertige lorsqu'on entend comme Abraham Dieu s'adresser à Israël lui disant c'est toi qui portes la vérité à tous les niveaux. Ça donne le vertige, alors on peut douter de soi. À l'origine, cette perplexité est d'ordre de la vertu. Mais lorsqu'il arrive que c'est vraiment une démission d'identité, alors c'est là qu'il y a la dialectique de faute et de punition. C'est ce que je voulais simplement indiquer. Le signe de la fin de l'épreuve, c'est le courage de la foi. Et ça, nous le verrons très en détail. S'il n'y a pas, oui.
Moral a compris l'exil chez Rambam en tant qu'une faute. Mais Rambam n'a jamais parlé de faute, il a parlé d'Anisayon Gadol. Et non. C'est le moral qui lui comprend.
Non. Prenez bien le Rambam. Dans son... Le Maharal a cité l'expression de Nisayon Gadol dans le fait que Abraham a mis Sarah dans cette épreuve. Mais si vous voulez, demain je lui dirai dans son texte. Alors il dit très explicitement que c'est une faute et que sa descendance sera punie à cause de la faute d'Abraham.
C'est pas Siman Avot Maasé Labani.
Justement. Mais où Maasé Avot Siman Labani? L'inverse, quel est Maasé Avot Siman Labani. Quand il vendait Avot, c'était une vertu. Pas exemple. Seulement, la situation est très ambivalente, elle est très ambiguë, elle peut être soit vertu, soit faute. Lorsqu'il se dévoile que dans la descendance, il s'agit d'une faute, alors il y a plus. Là, je crois qu'on a avancé un peu, quand même, dans l'air. Pourriez-vous me dire quelle heure il est à Paris? Parce que je crois que j'ai pas
besoin.
Alors, il nous reste une demi-heure. Je vous demandais de prendre 10 minutes d'aération et on revient pour le quart d'heure qui restera, je vous laisse 10 minutes. Je vais vous passer. Alors, vous pouvez y aller. Voilà, nous allons donc aborder la deuxième thèse que le Maharal veut critiquer. On le fera plus rapidement que la première. Donc, c'est la thèse d'Abravanel et je vous avais déjà annoncé que. Le Maharal ne veut même pas citer le nom d'Abravanel, tellement cette deuxième thèse lui paraît difficile à admettre. Veillez à Ferio. Je vais vous dire dans quelle ligne nous sommes. À la fin de la septième ligne, oui. Veillez à Ferim. Et il y a d'autres sous-entendus commentateurs. Minachronim, des postérieurs, des derniers. Chez Otsi ou Milibam, qui ont sorti de leur cœur, ont d'avoir à faire encore une autre chose, une autre explication. Chez Amrou, ils ont dit, chez Chetagagout, que la faute de l'exil, et Haya a été Bechet Ashmatim, dans la faute des tribus, c'est-à-dire les fils de Jacob, Bimrirat Yosef, lorsqu'ils ont vendu Joseph, à la vente de Joseph. Graf Yosef Hartin, et Joseph lui-même a participé à cette faute. Mais Benesh Aliado a été un Mechira, parce que c'est à cause de lui que cette vente a eu lieu, à cause de lui-même. J'explique tout à l'heure. Chez Yosef Garamze, car c'est Joseph qui a provoqué cela. Chez Im Loévi Diba El Aviv, parce que s'il n'avait pas calomnié ses frères auprès de son père, Loirarze, cela ne serait pas arrivé que, j'explique, ses frères se soient vengés en le vendant comme esclave. Oui, Penech a yedé son, et par le fait qu'à cause d'un problème de troupeau, Aïta Mechira a eu lieu cette vente, qu'est-il, comme il est écrit au chapitre 32, Vayelechou l'irot son avien Bishrem, ils sont allés pour faire paître le troupeau de leur père à Sichem, à Shrem, ou Firach, et c'est la raison pour laquelle a yedé son yardu. Les Mitraïm, à cause d'un problème de troupeau, ils sont descendus en Égypte. Le verset dit, qui est Miraïratson Asherlahvadecha, il n'y a pas suffisamment de pâturage pour le troupeau de tes serviteurs. Et nous devons Asheramut Minachaonim, et ce sont ces choses-là qui ont été dites par certains des commentateurs postérieurs. Ensuite, dans tout le reste du paragraphe, le Maharal critique en disant que tout ceci n'est pas de base. Alors je voudrais maintenant reprendre la thèse qui vient d'être citée. Alors comme tout à l'heure, je vais essayer d'expliquer ce qui se passe réellement dans l'événement. Je voudrais reprendre une formule qui a été citée tout à l'heure par dans une des questions. C'est une formule qu'emploie souvent le Midrash, qui est importante à comprendre. C'est Maase Avot Siman Labanim. Ce qui est arrivé chez les pères, Maase Avot, ce qui a été fait comme événement chez les pères, Siman Labanim, c'est un signe pour les fils. C'est-à-dire, c'est un signe que nous allons vivre les mêmes problèmes d'identité. Au niveau des pères, ce sont des histoires qui sont arrivées à l'échelle des personnes individuelles. Au niveau des fils, ce sont les thèmes d'identité du peuple tout entier. Et là, nous aurions de nouveau une explication du même type. Or, que s'est-il passé dans cet événement? Il faut se rappeler que cet événement de la jalousie réciproque, entre guillemets provisoirement, entre Joseph et ses frères, et réciproquement, arrive à la fin de l'histoire de l'exil de Jacob chez Laban. Il y a eu une première tentative de relation à la civilisation extérieure qui nous est racontée dans cette préfiguration de tous les exils, Jacob au service de Laban. Et ça a duré très longtemps. En fin de compte, à la fin de cette période de la vie de Jacob chez Laban, la Torah nous raconte que Laban est pris de haine contre Jacob. Et c'est une haine grave. Parce que nous sommes dans les circonstances les plus optimales de la relation entre Israël et les nations. Puisque, comme vous le savez, Laban est l'oncle de Jacob. Et il va devenir son beau-père. La relation entre Jacob et Laban est vraiment une relation la plus privilégiée. Et pourtant, Jacob a été le berger des troupeaux de Laban. Et comprenez tout ce qu'il y a derrière l'expression elle-même, à la fin de cette période de 20 années où Jacob travaille chez Laban à améliorer les troupeaux de Laban, si j'ose dire, voilà que Laban est pris de haine contre lui et que Jacob doit s'enfuir. À ce moment-là, tous les enfants de Jacob étaient adultes, sauf Joseph qui vient de naître, puisque c'est au moment de la naissance de Joseph que la fuite de Jacob de chez Laban a eu lieu. Et nous voyons donc les enfants de Jacob se diviser en deux groupes sur ce problème essentiel. D'un côté, tous les frères de Joseph, et de l'autre côté, Joseph seul. Benjamin n'est pas encore né, puisqu'il va naître sur le chemin du retour. Et Joseph est donc enfant, et n'a pas l'expérience que ses frères adultes ont eue de cette histoire de Jacob chez Laban, c'est-à-dire d'Israël dans l'exil. Avec, encore une fois, quelle que soit la fonction qu'on attribuerait à cet exil. Lorsque Joseph grandit, il commence à rêver à la fonction de l'exil, qui était le rêve des patriarches. Encore une fois, on se réfère à ce qu'on a vu tout à l'heure, dès qu'une valeur aura émergé dans l'identité d'Israël, dans l'identité qui sera celle de la prophétie hébraïque, il faut en faire profiter l'universel humain. Et Joseph recommence à rêver ce rêve, alors que ses frères adultes avaient déjà fait le bilan que le voyage de Jacob chez Laban menait à l'échec. Très important de préciser cela. Tous les frères de Joseph avaient vécu cette histoire jusqu'au bout, jusqu'à l'échec. Et voilà que Joseph se remet à rêver de la même histoire. Il est passé en jugement et il est condamné comme traître à l'histoire d'Israël. J'ai beaucoup raccourci l'analyse et vous comprenez le problème. En fait, selon la halakha, il aurait dû être mis à mort. Reuven, le premier fils aîné, intervient, Judas intervient, et le sort de la mort. Mais il sera condamné à l'exil, c'est-à-dire il sera condamné à sa propre vocation. Je crois que nous avons déjà suffisamment d'éléments pour comprendre la suite. Il y a, si vous voulez, une tension messianique, de projets messianiques différents, entre Joseph et ses frères. Joseph recommence à rêver le fait qu'il faut voyager là où de la lumière doit être dévoilée. Ou dans l'autre rêve, là, ça c'est le premier rêve, quand il fait nuit, il faut être les porteurs de lumière, les étoiles. C'est le rêve de l'exil. L'autre rêve, c'est là où le blé pousse. Il faut aller couper le blé pour l'engranger, de telle sorte de donner à manger à toute la terre lorsqu'il y aura la famine. C'est le rêve de l'exil. Effectivement, c'est ce que Joseph voudra faire. Et pendant une première longue étape de l'histoire d'Israël,
c'est cette tentative de Joseph qui va être conduite en Égypte même. Oui, donc de quelle nature est cette tension de projets messianiques différents entre Joseph d'un côté et ses frères de l'autre. Ses frères ont déjà vécu cette histoire et ils savent qu'elle aboutit à l'échec. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle recommence avec le rêve de Joseph, ils le condamnent. À ce niveau, cette rivalité, cette tension d'identité, à ce niveau des Avot, c'est encore une fois de l'ordre de la vertu. Lorsque ce même problème de rivalité intervient dans la descendance de ces mêmes patriarches, au niveau de méchanceté entre les frères, alors là il y a faute, et là l'exil punit la faute. C'est clair jusque-là. C'est-à-dire, Joseph et ses frères sont en rivalité pure, disons en hébreu, Marfouk, Shamaïm, d'une controverse désintéressée. C'est une controverse. La faute qui est unie par l'exil. C'est de nouveau le même système d'esclavage. Nous savons d'ailleurs, à propos d'une autre dimension du problème, que le Talmud nous dit très clairement que le deuxième temple a été détruit à cause de ce qu'on appelle la sinat finam, c'est-à-dire la haine gratuite. Et la racine de la haine gratuite, nous pouvons la voir dans cette histoire de Joseph et ses frères. Mais de nouveau, le système de réfutation du Maharal. Si nous disons, comme Abravanel le laisserait croire, que l'exil d'Égypte a puni l'événement de Joseph et de ses frères, c'est de nouveau explication du type péché originel. En réalité, il s'agit de tout à fait autre chose. Il y a une tension de rivalité. Au niveau de Joseph et de ses frères, l'intention était pure. Lorsque cette même tension de rivalité devient mauvaise, si j'ose dire, au niveau de la méchanceté, alors elle est punie comme faute. Je pense que vous avez là un deuxième exemple du même système d'exposé. Voilà donc l'essentiel de ce que je voulais compléter pour ce matin. Alors, dès demain, nous commencerons l'étude de la citation du Talmud que le Maharal a expliqué et qui va mettre en question l'identité d'Abraham au niveau de la foi. Et je vous annonce déjà le déroulement de l'exposé. Lorsque cette mise en question de la foi se dévoilera dans la descendance, alors l'exil vient corriger cette faiblesse de la foi.